Au quotidien, avec Hélène Denis.
Septembre, pouvez-vous croire que octobre s'en vient puis qu'on a l'impression d'être encore en été, mais on ne se plaindra pas, en tout cas pas moi. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Aujourd'hui, à l'émission, qu'est-ce qu'on a? Ben Mathieu, bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Mathieu est sorti la semaine dernière, c'était quand, jeudi, votre sortie au théâtre?
Oh là là, j'ai pas... mardi.
Mardi? Non, parce que vous auriez parié de la pièce le lendemain.
La pièce. Ben, je vais vérifier.
OK, mais en tout cas, de toute façon, vous avez vu une pièce?
Oui, je suis allé voir Mamie le retour.
Mamie le retour.
Au centre du théâtre d'aujourd'hui. C'était... On s'en parle tantôt.
Oui, mais c'était un petit indus.
C'était très bon.
Oui, vous avez adoré.
Oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Et vous vous êtes couché tard.
On s'est couché tard.
On va tout savoir vers 10h15, 10h20 dans ces eaux-là avec Mathieu Tessier en régie et aussi le sorteux, Mathieu, qui sort pas mal. Également, qu'est-ce qu'il y aura au menu? On va parler de théâtre encore une fois, cette fois avec deux comédiennes, Rose-Anne Derry et Kim Despaty, qui seront avec nous pour nous parler de leur présentation, de leur participation, devrais-je dire, dans L'usure de nos aurores. C'est un très beau titre. C'est la première pièce de la comédienne Debbie Lynch White. Et elle signe aussi la mise en scène, en plus d'avoir écrit cette pièce, bien d'en entendre parler. Et nos collaborateurs du lundi sont là tous les deux. Daniel Rioux au bout du fil. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Hélène.
Et bonjour, Louis de Bernis, qui est en studio.
Bonjour, Hélène.
Bonjour, Louis. Alors, Daniel, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
Bien, je vais vous poser une question à vous et à tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes acheteur compulsif? Est-ce que votre salon ressemble à une librairie?
Hein? Acheteur compulsif de livres?
De livres, oui, acheteur compulsif de livres. J'ai pas précisé. Est-ce que votre salon ressemble-t-il à une librairie? Alors, là, il y a une question que je vous pose ce matin, la grande question. Est-ce que vous êtes bibliophile ou bibliomane?
OK. Alors, il y a une différence entre les deux, si je comprends bien.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il va y avoir même des trucs aussi.
Ah oui, des trucs? Des trucs pourquoi?
Ben, vous allez voir.
OK, on va voir. Merci d'être là. Et Louis, deux sujets à propos de choses de grande valeur au programme pour vous cette semaine.
Oui, exactement. Tout d'abord, des dessins d'enfants dans une école qui sont vendus aux parents. Ça fait un peu scandale, ça fait en tout cas l'actualité en Australie, mais c'est pour pouvoir payer les professeurs. Enfin voilà, tout ça est un peu compliqué, mais je vous raconterai, ça fait les gros titres en Australie. Et puis en Angleterre, argent aussi, une famille a trouvé un certain nombre de pièces d'or antiques dans leur jardin en jardinant. Mmh. Ils vivaient sur une petite mine d'or.
De l'or. Mais c'est super, ça. Merci pour votre présence et ces deux sujets qui nous intéressent déjà. On y va avec La Bronze et sa plus récente chanson qui s'intitule « Ma belle petite vie gâchée ».
Fais le saut d'un autre haut, lève-toi. La meilleure version de moi-même, si ton corps est au bout bois de l'eau, prends d'assaut les plus forts du système. Tu récolteras ceux qui te sèment, les meilleurs humains, oui, la crème. Ils m'ont toute vie, toujours visé plus haut. Laisse-moi tomber dans les sales eaux de ma belle petite vie. Sera pour demain, je réaliserai mes rêves ailleurs. Un thé sans manger et puis parc à chien. Tout mon potentiel est coulé dans le drain. Et mes belles ailes ont séché dans mes mains. J'existe, c'est tout, et je m'en fous de ma belle petite vie gâchée. Toujours visée plus haut. Laissez-moi retomber dans les sales eaux de ma belle petite vie gâchée. Je ne suis pas ton héros. Laissez-moi retomber dans les salles.
Ma belle petite vie gâchée, c'est une chanson de la bronze.
À la une du Devoir, un dossier à lire absolument qui concerne tout le monde et qui parle de rage au volant. C'est extrêmement troublant et même bouleversant. La rage au volant, Jessica Nadeau, des gens qui réagissent agressivement à la suite d'un accrochage, des automobilistes qui sortent un fusil à plomb ou une barre de fer à la suite d'un échange de doigts d'honneur, des conducteurs qui foncent volontairement sur des piétons ou des cyclistes ou des conducteurs effrayés parce qu'ils se font couper la route et suivre de façon agressive. Ce sont autant d'exemples de rage au volant signalés au service de police de Saint-Jérôme qui a vu le nombre d'appels monter en flèche depuis la fin de la pandémie. Et ce n'est pas unique à cette municipalité de banlieue. Un peu partout au Québec, le nombre de cas signalés par les différents corps policiers augmente de façon importante, a pu constater le Devoir. Entre 2022 et 2024, on est passé de 982 à 1186 cas de rage au volant, soit une hausse de 20 % pour l'ensemble des 10 corps policiers qui ont accepté de diffuser leurs données. Et on a aussi des exemples de cas, des personnes qui ont vécu, qui ont été victimes de rage au volant. En 2021, Alain Morel a été victime d'une violente altercation sur la route qui a bouleversé sa vie et dont il subit les séquelles encore aujourd'hui. Et il dit, a posteriori, je regrette de ne pas avoir quitté les lieux lorsque j'ai vu que j'avais affaire à un enragé du volant. Quand il a commencé à me pousser, j'aurais dû rembarquer sur ma moto ou ne jamais en débarquer. J'aurais dû partir, dit-il. C'est d'ailleurs le premier conseil que donnent les experts consultés par Le Devoir pour éviter de se retrouver devant un inconnu en proie à une rage au volant dont le comportement peut être imprévisible et violent. Il faut ignorer les invectives et les comportements de l'autre personne, ne pas la regarder et ne pas répondre pour éviter d'envenimer la situation. Il est préférable de poursuivre sa route, quitte à faire un détour pour s'éloigner de l'autre, et surtout ne jamais descendre de son véhicule. Dans tous les cas, si on sent que la situation peut devenir dangereuse, il est recommandé d'appeler la police qui pourra intervenir pour calmer le jeu. Et on a rencontré aussi une famille, 3 enfants qui ont perdu leur père dans une cause de rage au volant. Et on parle de ceux et celles qui explosent au volant. Derrière justement cette explosion d'agressivité où la personne va perdre le contact avec les réalités, il y a un problème d'impulsivité et de gestion émotionnelle. Note 2 experts qui donc parlent de ce phénomène. Le thérapeute spécialisé en gestion de la colère, Normand Faubert, qui travaille avec des hommes accusés de rage au volant qui doivent consulter sur ordonnance de la Cour, et aussi le psychologue Louis Legault. C'est à lire donc dans Le Devoir d'aujourd'hui. À la une du Journal de Montréal, jeune policier héros, il sauve de son VUS en feu. Il sauve un homme de son VUS en feu et ils ont vraiment risqué leur vie. C'est à lire en page 5 sous la plume de Frédéric Giguère, deux jeunes policiers de l'Assomption ont risqué leur vie pour sauver un automobiliste coincé quelques instants avant que son véhicule ne s'enflamme. Ça s'est passé le dimanche 21 septembre. Les agents Gabriel Daou et Noémie Vizina viennent de commencer leur quart de nuit lorsqu'ils reçoivent une alerte car crash, généralement déclenchée par une montre ou un cellulaire. En arrivant sur les lieux, les policiers, ayant à peine 2 ans de métier, constatent un véhicule enlisé dans le fossé, renversé sur le côté et partiellement enflammé en bordure de la route 341. Le conducteur répétait qu'il allait mourir, mais le duo de policiers de l'Assomption ne l'a jamais lâché. C'est à lire dans le Journal de Montréal. Et à la une de la presse d'aujourd'hui, on revient sur ce qui se passe à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, des soins remis en question. De très longs délais de réponse après avoir sonné pour de l'assistance, des culottes d'aisance souillées qui ne sont pas changées, du personnel qui consulte son téléphone dans le corridor. La réputation de l'hôpital du Nord de l'île de Montréal en prend pour son rhume ces temps-ci. C'est un dossier de Marie-Ève Cousineau. L'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est sous surveillance depuis que le protecteur du citoyen y a signalé un abus des contentions et des cas s'apparentant à de la maltraitance. 2 familles dénoncent les traitements reçus par des proches. C'est à lire à la une de la presse d'aujourd'hui.
cardinal, oh cardinal, donne-moi ta couleur. Cardinal, oh cardinal, donne-moi ta couleur. Que je fende le blanc de l'hiver, j'aimerais fendre le blanc de l'hiver comme toi. Et j'essaie de mieux voir devant, et j'essaie de mieux croire devant. De détendre l'instant.
C'est le titre de cette chanson de Avec pas de casque.
C'est l'heure de la chronique de Daniel Rioux. Daniel, il y a des gens qui sont bibliomanes, d'autres qui sont bibliophiles et peut-être qu'il y en a qui sont les deux.
Oui, probablement les deux. Et c'est ce que vous allez découvrir ce matin, justement. C'est apparu dans le magazine Psychologie de mars dernier. Et c'est assez intéressant à découvrir. On parle de livres, on pourrait parler d'objets aussi, mais ici, il est question de livres. Bon, tout d'abord, on mentionne qu'il y a des amoureux des livres qui les feuillettent avec égard et les mettent à l'honneur dans leur bibliothèque. Et puis, il y a les acheteurs compulsifs de livres qui ne peuvent s'empêcher d'acquérir sans cesse de nouveaux ouvrages qu'ils n'ouvriront jamais. Les premiers dont je parlais sont des bibliophiles et les seconds sont des bibliomanes. Donc, les bibliomanes sont des accumulateurs pathologiques qui sont incapables de retrouver un livre précis dans leur désordre. Les bibliophiles, tant qu'à eux, en revanche, ont lu chacun d'entre eux, chacun des livres achetés, et savent très précisément où il est rangé, acheté ou emprunté à la bibliothèque. C'est ce qu'assure Vincent Tribou, qui lui a écrit un livre qui me semble assez intéressant, je vous le mentionnerai à la fin, « Se libérer de l'accumulation pathologique, je jette, je trie, je range ». Bon, il paraîtrait que ça compense un vide existentiel, c'est ce que affirme la psychanalyste Valérie Sanglère. Les bibliomanes ont souvent grandi avec un manque affectif qu'ils tentent de guérir par leur addiction. Alors, l'accumulation d'objets les rassure comme n'ont pas su le faire leurs parents, qui étaient peut-être absents physiquement ou psychiquement. Ils cherchent alors une activité pour combler ce vide. Bon, certains vont fumer la cigarette, prendre un verre. D'autres vont remplir de livres leur appartement.
Meilleur pour la santé.
Ben, c'est ça.
Ben, peut-être pas financière.
La santé financière, on repassera justement. Et puis, elle mentionne que c'est ce qui leur permet justement de se sentir contenu, un peu comme dans un utérus. La bibliomanie est souvent le fait de personnalités obsessionnelles qui ont du mal à se projeter vers l'avenir. Hein, ils se confinent dans le passé,
ouais,
probablement.
Ça va loin, hein?
Ben, ça va loin.
C'est vraiment une manie, là.
Ah oui, c'est une manie, puis ces personnes-là procrastinent beaucoup car elles sont restées bloquées à un stade de leur développement. C'est ce qu'elle affirme, la psychanalyste Valérie Sanglère. Se dire qu'elles vont lire un livre et finalement ne pas le faire, cela les rassure car aller de l'avant, ben pour eux, c'est aussi avancer vers la mort, c'est ce qu'elle mentionne. Bon, j'arrive pas à trier ça, on peut l'entendre à d'autres niveaux. Alors, pour certains, jeter est un crève-cœur. Ils vont garder des livres qu'ils ne lisent jamais pour des raisons sentimentales. On pense, par exemple, si vous avez hérité de livres de votre grand-mère, ben, si vous vous en débarrassez, c'est comme si vous la tuiez, vous étiez en train de la tuer une seconde fois. C'est ce qu'affirme Vincent Tribou. L'accumulation pathologique peut aussi être liée à une dépression ou à des difficultés d'organisation. D'ailleurs, 20 à 30 des patients accumulateurs souffrent de TDAH, ce qui implique souvent une impulsivité de l'acte d'achat et aussi une difficulté à se concentrer, à choisir ce qu'on va garder ou encore laisser de côté. Ben, beaucoup ont peur aussi de regretter, de faire un mauvais choix, de se débarrasser de quelque chose qui pourrait peut-être leur servir, évidemment, un jour, hein, ce qu'affirme le psychologue. Trier leur demande aussi une grande énergie qu'au bout d'un moment, ils abandonnent de continuer. Je soigne mon image, ce serait peut-être ça aussi. Les livres comblent parfois nos failles narcissiques. À travers eux, ben, on se sent appartenir à une communauté qui nous valorise. Il y a parfois cette idée que posséder le livre, c'est déjà avoir le savoir qui va avec. C'est ce que suggère Vincent Tribou. Et certains achètent 50 livres de cuisine et ont l'impression de cuisiner. C'est juste pour vous dire, j'ai trouvé drôle celle-là. Ces livres leur donnent aussi le sentiment d'avoir une identité, hein, de compenser peut-être un sentiment d'échec ou un manque d'estime de soi. Et se projeter sans cesse dans de nouvelles lectures peut être aussi un grand signe de curiosité, hein, d'intellectuel, d'une soif de connaissance, mais toujours à condition de l'assouvir de temps en temps en ouvrant les livres qu'on achète. Ça, c'est pour les bibliomanes. Puis, il y a une dame ici, Clara, 44 ans, toujours dans cet article, qui dit, moi, j'ai trouvé une solution, j'ai acheté un carnet de lecture. Elle avoue qu'elle avait tellement de livres sur sa table de chevet qu'elle ne savait plus par où commencer. Donc, elle a acheté ce carnet de lecture qui l'a beaucoup aidé à structurer son organisation. Moi aussi, j'ai un carnet, mais pour écrire des titres. Alors, elle dit qu'elle lit davantage les livres qu'elle achète depuis qu'elle a ce petit carnet. Puis, elle fait aussi des comptes rendus. Elle note aussi ce qu'elle a aimé ou encore moins aimé. Elle voit aussi combien de livres qu'elle lit réellement. Elle y note les titres et qui l'intéressent sans forcément les acheter tout de suite, pas répondre à une impulsion. Savoir que je les inscris aussi dans son petit carnet, ben, ça la sécurise. Et elle n'a plus peur de rater le livre qu'il faut absolument lire. Elle y va davantage à son rythme à elle. Bon, puis pour les bibliomanes, ben dans cet article dont je rappelle qui est paru dans Psychologie de mars dernier, il y a 4 conseils. Le premier conseil, c'est tout d'abord s'interroger à son rapport avec un livre. C'est quoi notre rapport avec le livre? Réfléchir à ce que les livres représentent pour nous peut aider à sortir de l'addiction. Bon, si par exemple, vos parents ne s'intéressaient à vous que lorsque vous leur parliez de vos lectures, vous avez peut-être appris à exister à travers des livres. ou encore pour si vous avez des moments de solitude, des grands moments de solitude. Alors, qui sont, c'est peut-être rendu ces livres-là qui sont devenus par le temps vos doudous, des clés pour interagir avec les autres. C'est ce que suggère la psychanalyste Valérie Sanglère. Deuxièmement, ben il faut être aussi indulgent envers soi-même. Hein. Contrairement, comme on disait, ramasser des livres, c'est plus santé, alors que contrairement au tabagisme ou à l'alcoolisme, l'addiction aux livres n'a pas d'impact négatif sur notre santé. Et comme on le mentionnait, si tout au plus, c'est sur le portefeuille ou sur son espace de vie, parce qu'il faut les ranger, ces livres-là. Alors, c'est important de ne pas se flageller, donc être indulgent, d'accueillir cette part de soi qui souffre, hein, parce que je souffre en faisant ça, et qui demande à être entendue. C'est ce que mentionne la psychanalyste. Et pour réparer son enfant intérieur, on peut, par exemple, faire appel à l'hypnose. Ça revient souvent dans les articles. Il y a aussi, troisièmement, apprendre à trier. Alors, si vous avez du mal à faire le tri dans vos livres, mettez en place une méthode de décision qui pourrait vous aider à passer à l'action. On utilise, en général, l'échelle d'utilité et l'échelle d'attachement affectif. Alors, il y a l'utilité et l'attachement et il y a deux critères. Sur une échelle de 0 à 10, vous gardez que les livres que vous classez au-dessus de 5. C'est ce que conseille Vincent Tribou, qui est psychologue et psychothérapeute. À part ça, le quatrième conseil qu'on suggère, c'est de différer ses achats. Ce livre qui vous fait de l'œil, hein, qui vous lorgne dans la librairie...
Achète-moi.
Prends-moi. Il s'agit de vous hypnotiser dans la librairie du quartier, sera toujours là demain, Et la technique du décalage est souvent très utile lorsqu'on est victime d'achats compulsifs. Dans la plupart des cas, les gens reconnaissent qu'après quelques heures ou une journée, l'objet convoité ne leur fait plus vraiment envie. Donc, l'obsession se range tranquillement sur la voie d'accotement, comme
on dit. Ça s'applique à plein de choses.
Ben, ça s'applique à plein de choses parce que d'ailleurs, je vous mentionnais que le livre de Monsieur Vincent Tribou, j'ai vérifié dans une librairie très connue ici au Québec. Le titre, c'est « Se libérer de l'accumulation pathologique. Je jette, je trie, je range ». Et c'est un guide justement qui a paru chez Duno en 2023. Et c'est un guide qui accompagne très bien pour le compulsif pour déjouer justement les pièges de l'accumulation. Et quand on parle d'accumulation, là, on parle surtout d'accumuler des objets aussi. Il n'y a pas que des livres, mais il y a les objets. Donc, peut-être que ce sera une occasion pour vous de faire le tour de votre maison puis de voir si vous avez trop de livres ou pas assez de livres, ou si vous êtes embourbé, vous ne savez plus quoi faire. Mais c'est un article très intéressant. Fait que donc, moi, je vous posais la question à vous tous, est-ce que vous êtes bibliophile ou bibliomane?
Moi, c'est moitié-moitié, mais je vais pas dans les extrêmes. J'aime acheter l'objet livre, mais je pense pas que ça soit une maladie. Là. Je veux pas absolument avoir le best-seller. Oui. Puis j'aime beaucoup lire également. Hein. Donc, j'aime les livres, j'aime l'objet et j'aime aussi me plonger dans la lecture. Je vous laisse parler, Louis et Mathieu.
Oui.
Moi, je suis entouré de milliers de livres tous les jours, mais c'est parce que je travaille dans une compagnie qui fabrique des livres, donc j'en vois tous les matins.
Ah, donc vous, c'est comme le chocolat, on en mange beaucoup quand on arrive à l'emploi, puis après ça, on n'en mange plus.
C'est peut-être un peu ça, oui, effectivement.
Regardons ça.
Un bel univers.
La misère. Puis Mathieu?
Oui, j'ai souffert de ce qu'appellent les Japonais le tsundoku, le syndrome d'acheter des livres sans les livres.
Sans les lire?
Voilà.
OK.
C'est ça.
Mais je me soigne depuis et ça ne m'arrive plus.
Ça ne vous arrive plus. Mais d'ailleurs, on parle aussi d'acheter des livres. On peut aussi emprunter à la bibliothèque, peut-être que aussi ça peut être une bonne façon d'éviter d'accumuler.
Oui. Vous, Daniel, hein? vous n'êtes pas commise?
Moi, ça serait des fois avec des objets. Des fois, je peux être un petit peu compulsive, là. Mais je fais attention. Les livres, c'est correct là-dessus. Moi, j'ai quelque chose de correct. Mais non, mais sérieusement.
Mais moi, j'ai une boîte de livres, là, dans mon coffre de voiture, oui. Puis je vais aller les porter dans les... Vous savez, les petits... ce sont presque des objets d'art. Là. Il y a des boîtes de livres partout, ouais, dans les parcs, sur le bord des routes. Puis les gens s'arrêtent, prennent les livres, il y a des échanges. Je trouve ça super parce qu'on les offre, puis ça circule.
C'est une très bonne idée. Puis moi, j'ai le bonheur, écoutez, dans l'économie circulaire, d'être dans une bouquinerie et je fais le tri de livres. Et mon plaisir dans le tri, c'est de trouver des trésors, puis de les chérir et tout. Puis mon Dieu, qu'il y a des livres, c'est j'adore ça. J'en achète pas de ce temps-ci. Je suis un petit peu compulsive sur les CD, mais c'est pour changer un peu ma discothèque, avoir de la musique nouvelle, puis quand je cuisine et tout ça. Mais j'ai une petite anecdote pour terminer. Alors, pour vous dire à quel point qu'on peut être fou balai, c'est en 1869 à Saint-Pétersbourg, en Russie, c'est Aloïs Pichler qui officiait la bibliothèque impériale de cette très belle ville que j'ai vue. Et en 1871, il y avait 4500 livres qui avaient disparu de cette belle bibliothèque et se trouvaient dans le salon de M. Pichler. Donc, lui, c'était vraiment un bibliomane.
Oui, M. Pichler, le bibliomane.
Oui.
Bien connu.
Oui, absolument. Fait que donc, puis le tri, ça peut être pour des objets, pour n'importe quoi, puis c'est peut-être une belle occasion, cette période de l'année, de commencer à faire un petit peu de ménage et donner aux autres et faire de l'économie circulaire et de partager.
Oui, et on rappelle aux gens de ne pas jeter de livres.
Non, non.
Ça, c'est un crime.
Ah, c'est un crime. C'est un grand crime.
Alors, Daniel, vous avez été inspiré par le texte qui a été publié en mars dernier, 2025, dans la revue Psychologie. Êtes-vous abonné à Psychologie?
Non, je vais à la bibliothèque chercher le magazine et je tire de bons articles pour vous faire plaisir.
Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des manies d'acheter des magazines. Il y en a tout plein partout dans les armoires. Bien, merci, oui. Daniel. Passez un beau lundi. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Reste avec nous à venir la chronique insolite avec Louis de Bernis et juste avant une chanson de Claire Laffut.
Vérité, une chanson de Claire Laffut.
Et c'est l'heure de la chronique insolite avec Louis de Bernice. Louis, vous commencez par une histoire qui s'est déroulée en Australie.
Oui, on va parler de la valeur des choses, la valeur monétaire, la valeur sentimentale, parce qu'il y a une histoire qui sort de l'ordinaire, effectivement, en Australie. Je vous parle de l'école maternelle Craigsley de Brisbane, qui malheureusement n'est plus. Elle a fermé ses portes récemment. Et l'établissement, qui a d'abord été placé en redressement judiciaire, n'a pas pu éviter la faillite, malheureusement. Un crève-cœur, bien sûr, pour les élèves, leurs parents, mais aussi pour les enseignants qui ont perdu leur emploi dans l'affaire, les derniers salaires n'ayant pas pu être réglés en intégralité. La direction de l'école vient d'imaginer un deal qui a bien du mal à passer auprès des familles, vous allez voir. La lettre aux parents qui a été envoyée lundi 22 septembre rapporte en effet leur propose de récupérer l'ensemble des dessins de leurs enfants en échange du versement d'une somme de 2 200 $ australiens, ce qui fait à peu près 1 800 à 1 900 $ canadiens. C'est ainsi que l'école entend combler bien les 40 000 $ australiens qu'elle doit à ses enseignants. Les parents qui ne verseront pas la somme exigée ne recevront pas les œuvres de leurs enfants. Voilà ce qui est précisé dans la lettre. Un parent d'élève jugeant la proposition indécente est allé, lui, récupérer assez rapidement les productions de son enfant sans verser le moindre centime. « Ils m'ont dit que je volais », explique-t-il au courrier mail, le journal local. L'école part du principe que les dessins des élèves lui appartiennent. L'ensemble des productions compilées par les enseignants à partir du travail des élèves réalisé sous leur supervision sont la propriété intellectuelle de l'école, argue Thomas Souza du comité de direction. Localement, l'initiative fait beaucoup parler, agite la communauté, elle est même remontée jusqu'au premier ministre de l'État du Queensland qui a pris une position tranchée sur le sujet. C'est du chantage émotionnel, accuse David Crisafulli. Ça fait longtemps que je n'ai plus d'enfants en bas âge à la maison. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu de Picasso rentrer chez moi, c'est sûr. Mais ces dessins ont une valeur particulière. Chaque parent devrait avoir le droit de pouvoir les emporter à la maison et les mettre sur le réfrigérateur. L'établissement privé pourrait être contraint de faire machine arrière, il tient bon pour l'instant, mais en Australie, le ministère de l'Éducation s'engage à remettre gratuitement et sur simple demande toute une série de documents aux parents concernant leurs enfants. Les dessins en font a priori partie. Depuis la médiatisation de cette affaire, en tout cas, les services de l'éducation du Queensland ont ouvert une enquête et il va donc y avoir débat pour savoir à qui appartiennent vraiment les créations de ces petits êtres.
Eh bien, il me semble que c'est effronté. Hein,
oui, puis la somme est un peu salée.
Oui. En Angleterre, maintenant.
Oui, Angleterre, autre valeur, autre trésor, celui-là bien réel, et fait le bonheur d'une famille. Une famille qui, et on peut la comprendre, souhaite garder l'anonymat, n'a pas gagné au loto, mais presque. Il souhaite garder l'anonymat pour éviter que des chasseurs de trésors n'envahissent ce village et leur jardin. Tout juste saurons-nous que cette belle histoire a pour cadre la commune pittoresque de Milford-on-Sea, près de Southampton, au Royaume-Uni. C'est un couple d'une cinquantaine d'années, parents de deux enfants, qui a découvert par hasard qu'un trésor dormait dans son jardin depuis 5 siècles.
Cinq siècles.
Oui, c'est un trésor historique en plus de ça. La découverte remonte à une période que nous avons tous connue, 2020, en pleine crise du Covid-19. Le couple s'attelait, s'occupait, à une corvée de désherbage dans son jardin. Ils creusaient dans une bordure de fleurs et ont trouvé des petits disques circulaires dans une motte de terre argileuse. Ils ont rapporté la motte, l'ont lavée et ont réalisé qu'il s'agissait de pièces d'or. Retrace David Guest, le commissaire priseur en charge de la vente de ce trésor. Après avoir déterré une première pièce, les jardiniers se sont transformés en chercheurs d'or et se sont affairés. D'autres pièces sont rapidement apparues dans la même parcelle. Ils ont donc continué. Ils en ont trouvé au total 64 pièces d'or au même endroit. Ils vivaient dans la maison depuis assez longtemps et étaient en fait assis sur une petite mine d'or.
Un coffre au trésor.
Oui, pas de coffre, mais les pieds, ouais. Les pièces étaient bien là. Le couple avait ensuite, et le couple droit et honnête, avait ensuite contacté les autorités pour déclarer sa trouvaille. Des fouilles archéologiques ont été lancées sur le site et ont permis de mettre à jour 7 pièces supplémentaires. Ils avaient donc déjà trouvé la grande partie du butin. Les experts ont pu dater avec précision cette monnaie souterraine. La plupart des pièces ont été frappées au XVIe siècle et les plus anciennes remontent même aux années 1420. Comment se sont-elles retrouvées enfouies sous une couche d'argile ? Le site se trouvant à proximité de prieuré historique de Christchurch, il est probable que ce trésor ait été initialement caché par un riche homme d'église ou un marchand fortuné. En théorie, un musée britannique aurait pu exercer un droit de préemption pour acquérir ce trésor, dans un état de conservation remarquable, paraît-il, précise le commissaire-priseur.
Étonnant, quand même.
Mais la période les a aidés, parce que c'était la crise sanitaire, le personnel en charge des opérations n'était pas disponible, et il n'y a donc pas eu de préemption, en tout cas pas dans les délais acceptables. L'ensemble du trésor a donc été rendu au couple qui se devait simplement le partager avec les propriétaires de la parcelle. En l'occurrence, ce sont eux les propriétaires, donc tout va bien. Ils récupèrent 100% de l'or.
Encore une valeur?
Oui, ça a une valeur. Ça a une valeur historique notamment. Et puis le cours de l'or aussi se porte très bien en ce moment. Nous sommes donc 5 ans plus tard, après la mise à jour de cette monnaie. La famille s'apprête à se séparer du butin. Il sera mis en vente le 5 novembre prochain, dans un peu plus d'un mois, en Suisse. La valeur est estimée à 265 000 euros selon l'article, donc on parle de à peu près 400 000 dollars canadiens. On verra ensuite si les enchères réservent encore d'autres belles surprises à cette famille qui se souviendra longtemps de cette séance de jardinage.
Alors, ils espèrent faire encore plus d'argent, j'imagine?
Bien là, ils possèdent les pièces, mais ils vont les vendre.
Oui,
donc ils vont récupérer. Donc, on verra. Est-ce que c'est 400 000 dollars canadiens? Est-ce que c'est plus si les enchères s'emballent un peu? Voilà le roulement de tambour dans lequel ils sont.
On compte sur vous pour nous donner la suite. Merci, Louis. À la semaine prochaine.
Ariane Moffatt, L'amour, le danger.
C'est le plus récent extrait de son album Air de jeu qu'on vous offrait à l'antenne de Canal M. Merci d'écouter Canal M, la radio de vues et voix, la voix de l'inclusion. Et Mathieu Tessier, notre metteur en onde, j'allais dire metteur en scène. Vous avez vu Mommy, le retour, qui est présenté en ce moment au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Et je pense que vous avez passé une excellente soirée.
J'ai passé une excellente soirée. Pour répondre à votre question, je suis allé jeudi dernier, le 25 septembre.
Oui, vous me disiez mardi, mais ça, c'était une autre pièce.
La pièce de la semaine d'avant.
Sortez tellement.
Exactement, jet set comme je suis. Donc, c'est présenté jusqu'au 18 octobre au Centre du théâtre d'aujourd'hui. C'est au 3900 sur la rue Saint-Denis. Et c'est joué dans la salle Michel Rossignol.
La plus grande salle.
Mm-hmm. C'est un texte et une mise en scène d'Olivier Chouanière, donc de l'auteur. Sur scène, on retrouve Félix Beaulieu-Duchesneau, qu'on a reçu d'ailleurs le 15 septembre, oui, à cette émission même. Lynn Dentiste, Sarah Laurando, Gabrielle Lemire, Edith Paquette et Zoé Tremblay-Bianco. Là, par où commencer? Premièrement, quand on arrive au théâtre, on est accueilli par une bande de morts-vivants, rien de moins. On nous offre même une petite séance de maquillage, si vous voulez presque faire partie du spectacle.
Est-ce que vous avez accepté?
J'ai hésité, mais non, je n'ai pas osé.
Alors, ça m'étonne de vous.
Oui, ben oui, voilà. On est arrivé un peu court dans le temps, puis bon, je ne voulais pas non plus arriver en retard.
Ouais.
Par où commencer? En fait, il était une fois.
Ouais.
Mommy meurt seule dans un CHSLD, méprisée par les préposés aux soins, abandonnée par les siens. Il faut dire que cette grand-mère-là n'était pas particulièrement tendre avec le monde qui l'entourait. Et comme elle refuse que le monde change parce que c'était beaucoup mieux avant, eh bien, elle ressuscite, ou plutôt elle se transmute en morte vivante. Elle part donc en croisade, alors par des slogans réactionnaires, une logique d'extrême droite plus ou moins subtile et des élans de violence, elle convainc, ou devrais-je plutôt dire, elle contamine son entourage. Parce que oui, malheureusement, Mommy sait se faire très convaincante. Elle utilise aussi une tactique bien éprouvée par le passé et encore de nos jours, elle se victimise et se place en défendresse des bonnes vieilles valeurs d'antan. Vous savez, du temps où il n'y avait pas d'immigrants, que seuls les vrais hommes travaillaient et que les femmes s'épanouissaient que dans la maternité et dans un foyer bien gardé et que seule la foi en Dieu pouvait être salvatrice. Le bon vieux temps, quoi.
Ben oui, mais un discours qu'on entend encore.
Exactement. La mise en scène d'Olivier Chouanière est originale, efficace et ingénieuse. Mêlant le théâtre, la musique, le chant, la danse, Mommy le retour, c'est ni une comédie musicale, ni un tour de chant, ni un concert, ni
c'est quoi?
ni une pièce de théâtre comme telle. En fait, c'est tout ça en même temps. Parce que je dis que c'est tout en même temps parce que le texte est parfois dit, il est parfois chanté sur des musiques hip-hop originales de Eman, le chanteur ou le rappeur plutôt de À la claire ensemble, et parfois même lip-syncé. Parce que les comédiens s'appuient sur des extraits de films, des discours politiques anciens et récents, et ça de toute allégeance confondue, pour faire passer le message.
Et le message passe?
Oui, et quel message? On a devant nous en fait une meute d'enragés qui scandent le retour en arrière et qui blâment le comportement des autres sans jamais, bien sûr, se remettre en question. Ils se victimisent tout en clamant la liberté d'expression. Ils veulent museler celle des autres, surtout ceux qui ne parlent pas français, parce que seuls Mommy et ses enfants sont les détenteurs de la vraie morale et qu'ils sont les protecteurs de l'honneur de la patrie et qu'il n'y a que la suprématie de la race blanche, catholique et conservatrice qui pourrait nous sauver.
C'est quand même assez provocant.
Ça vous dit quelque chose?
Provocateur, oui, oui, tout à fait.
Et nous, comme spectateurs, en fait, on se retrouve devant un drôle de dilemme. On veut appuyer les comédiens parce qu'ils sont franchement tous et toutes extraordinaires. Et on veut participer au spectacle, mais on nous demande tout de même de scander des horreurs.
Oh, on vous manipule.
Oui,
on
ça
essaie,
ressemble à ça.
Cas,
ouais.
Ouais.
Fait qu'on n'a presque pas le choix que d'en rire, en fait. On rit pour s'en protéger, puis pour se défendre. On rit parce que c'est grotesque. On rit parce que c'est bien trop. On rit jaune aussi parce qu'on comprend que ce trop-là existe déjà autour de nous, que les discours réactionnaires n'ont pas besoin de faux sang, eux, pour séduire. Il suffit parfois d'un micro, d'une caméra et d'un bon slogan accrocheur pour faire marcher une foule entière, même à reculons. C'est une expérience très forte, franchement réussi. Chouanière, dans ce texte-là, ne cherche pas à nous rassurer du tout. Il provoque, il confronte, nous bouscule. C'est jouissif, irrévérencieux, délirant, dérangeant. Un exutoire théâtral, je me disais en sortant. Mais c'est peut-être aussi un avertissement. Parce que si l'auteur fait revenir Mommy d'entre les morts, c'est sans doute pour nous rappeler que certaines idées, elles aussi, refusent de mourir et qu'il faut être vigilant.
Absolument.
Peut-on se permettre, en fait, de laisser ou de relaisser la voie à l'extrême droite? Où doit-on la combattre et la placer face à ses contradictions et à ses dérives? Est-ce qu'on ne devrait pas l'empêcher avant qu'il soit trop tard, parce qu'il est déjà trop tard trop souvent? En fait, je vous laisse décider par vous-même.
Êtes-vous sorti de là désespéré, allumé, investi?
En feu, en fait.
En feu?
Oui, en feu.
Pas en maudit, en feu.
En feu, voilà.
Alors, ça crée un malaise, puis ça nous remue, ça, c'est sûr.
Ça vient nous chercher comme spectateur, et je vous invite, en fait, à y aller. C'est jusqu'au 18 octobre.
Paraît-il que la personne qui incarne Mamie, c'est Gabriel Lemire qui incarne Mamie?
Oui, ils sont tous formidables, mais Gabriel Lemire, sa performance est particulièrement remarquable. C'est un personnage...
Le mec réagissait comment?
Le public était...
En feu aussi?
Je pense que tout le monde a compris le message de la pièce.
Ah!
Il y a des clins d'œil à l'actualité, certains personnages publics présents et un peu du passé, mais il se passe beaucoup de choses, en fait, sur scène. C'est jusqu'au 18 octobre au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Et je termine ce compte-rendu en vous faisant jouer une des pièces musicales, une des chansons, un des numéros musicaux. Je ne sais pas comment le décrire, vous allez voir.
Un des numéros musicaux. Merci Mathieu, vraiment, là, vous nous avez donné envie de nous rendre au CTDA pour assister et vivre ce grand moment théâtral.
La pièce s'appelle « Ménage d'en place ».
Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage.
Mommy.
Et là, comparé à d'autres grandes marques,
Mommy
est le meilleur détergent pour faire partir la grosse saleté imprégnée. Et il n'y a rien de mieux pour les tâches tenaces.
La maison est sale, toute la province pue. Ça sent le lendemain de veille, jusque dans la rue. Le plancher est couvert de bouteilles de canettes. Le frigo est mort, aigle dedans mon petit Québec. Qui c'est qui a salé le tapis du salon? Qui c'est qui a osé manger ma tarte? Qui c'est qui a laissé mes couteaux sur le rond? Qui c'est qui a fumé ma copie de la charte?
Pas de cochon dans mon salon.
Essuie tes pieds en rentrant, c'est pas une porcherie. Non.
Pas de cochon dans mon salon.
Le blanc c'est très salissant, c'est moi qui torche ici.
Avec son détergent, elle chasse les parasites. Mamie fait push-push, il tue les bébites. Avec ou sans gants, elle chasse la crasse tenace. Mamie, if you faire le ménage d'en place.
Mamie est là.
Mamie, if you faire le ménage. Mamie, if you faire le ménage.
L'abandon des agriculteurs, la petite industrie, l'incompétence dans l'éducation, dans la santé. Le chômage, le patronage, le gaspillage, la corruption généralisée du gouvernement. On ne peut plus continuer comme ça. Il est grand temps de faire le ménage.
Go. Fini les orgies de la période des questions. Mommy rentre dans le tas avec sa brosse puis son savon.
Les ministres ont fini de se faire bronzer les coudes. Mommy tue les parasites avec du bicarbonate de soude.
Quand bébé échappe son assiette, Mommy ramasse le dégât avec une gazette.
Mais quand l'État échappe le destin de la nation, Mommy lève une armée de Monsieur Net.
Monsieur Net, Monsieur Net, Monsieur Net.
Regarde comme il est beau.
N pour
non,
E pour
E,
T pour T,
t'es-tu chaud ou faut que je répète
encore?
N pour
non,
E pour
E,
Mommy lève une armée de Monsieur Net.
Pas de cochon dans mon salon.
Ici c'est ma maison, fait que tu fais ce que je dis.
Pas de cochon dans mon salon.
C'est moi la reine du foyer, la mère de ce pays.
Avec du mororo, elle chasse la vermine. Mommy noie les chats et te décontamine. Avec une cage, un fouet ou un pic à glace. Mommy est venue faire le ménage d'en place.
C'est moi.
Mommy est venue faire le ménage.
Qui? Tout le monde.
Mommy est venue faire le ménage.
Aujourd'hui, c'est jour de séparation. Du bon grain de livret dans toute la nation. Respect pour le passé, je garde la tradition. Mais je sais tout le reste, surtout la députation.
Et voilà, ménage dans place, une pièce qu'on entend durant le spectacle Momie, le retour.
Merci beaucoup, Mathieu. Il y a un nouveau rapport qui dresse un portrait détaillé de la mise en œuvre des responsabilités des ministères, des organismes publics et des municipalités à l'égard des personnes en situation de handicap. Il fait le suivi de 9 dispositions légales pour la période d'avril 2020 à mars 2024. C'est un communiqué de l'Office des personnes handicapées du Québec. Le rapport met en évidence plusieurs avancées. On observe notamment une hausse de la production et de la qualité des plans d'action annuels à l'égard des personnes handicapées. Ces plans sont élaborés par des ministères, des organismes publics et des municipalités. Ils permettent d'identifier les obstacles à la participation sociale et de mettre en place des mesures pour les réduire. La consultation de personnes handicapées ou de leurs représentants lors de l'élaboration de ces plans s'est également renforcée. On note aussi une meilleure prise en compte de l'approvisionnement accessible, ainsi qu'un accroissement du nombre de mesures visant l'accès aux documents et aux services. Ce bilan fait partie d'une démarche plus large entreprise par l'Office des personnes handicapées du Québec afin de suivre de près la mise en œuvre de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Il répond aussi à certaines recommandations du troisième rapport indépendant sur la mise en œuvre de la loi déposée à l'Assemblée nationale en 2023. La question centrale à laquelle ce bilan répond est la suivante. Dans quelle mesure les responsabilités générales et particulières des ministères, des organismes publics et des municipalités ont-elles été mises en œuvre pour la période 2020-2024? Au-delà des progrès réalisés, le rapport formule des recommandations. Ces recommandations visent à poursuivre l'amélioration de la mise en œuvre des 9 dispositions de la loi à l'étude. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport complet sur la mise en œuvre des responsabilités des ministères, organismes publics et municipalités. Je vous donne l'adresse de l'Office des personnes handicapées du Québec. C'est www.ophq.gouv.qc.ca. Je répète, www.ophq.gouv.qc.ca. Hélène Denis qui vous accompagne encore une demi-heure à venir, une chanson de Jérôme Minière et aussi une conversation avec les comédiennes Rose Anne Derry et Kim Despatie à propos de la pièce « L'usure de nos aurores » qui prend l'affiche de la Licorne le 7 octobre. Restez avec nous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Voici un cadeau. Tuto si tu te sens isolé, solo, à plat, tout ramollo. Pas assez aimé, fatigué de tout ça. Étire un peu le bras, oui juste un peu comme ça. Et souris à la personne la plus proche de toi, la plus proche de toi. Que ce soit dans ton cœur ou dans la rue, cette avenue, ce sourire, c'est ta chance. Vois, ces quelques mots ne changeront pas tout. Ça fait un bien fou, passer du jeu au nous. Tu le savais pas, quelqu'un pense à toi, il tire un peu le bras, un peu comme un chat. Il sourit à la personne la plus proche de toi, de toi. Que ce soit dans ton cœur ou dans la rue, hein, dans le métro ou sur cette avenue, ce sourire, c'est ta chance. Ou debout immobile dans ce champ solitaire, c'est trop moche se sentir. Personne à l'entour, personne. grâce à nos secours. Si tu es face à un mur, murmure au moins que tu l'aimes, même si ça ne résoudra pas le problème. Mais quand même, que ce soit dans ton cœur ou dans la rue, hein, dans le métro ou sur cette avenue, un sens de la lumière dans le silence, ou bien quelque chose qui enfin recommence, un machin qui dépasse un peu l'impasse, un rayon de joie. Oui, chante un peu comme ça, cet air tout simple qui te met en joie. Que ce soit dans ton cœur,
la chanson Le Sourire.
Et j'accueille avec le sourire deux comédiennes que vous connaissez sans doute, Rosanne Derry. Rosanne, qu'on a vu beaucoup au théâtre, à la télévision, dans Qui a poussé Mélodie, Le dernier des monstres, au cinéma, Mille secrets, mille dangers,
oui,
chanceuse.
Qui vient de sortir.
Oui, oui, hâte de voir ce film. J'ai lu le roman avec beaucoup d'intérêt. Et au théâtre, vous avez joué dans Malaise de la civilisation, mais dans plein d'autres
pièces.
Oui,
oui, oui, bien sûr.
Oui. Et puis là, vous êtes ici pour parler de L'usure de nos aurores, la première pièce de la comédienne Debbie Lynch-White, et à vos côtés, Kim Despatie. Bonjour, Kim.
Bonjour.
Kim, qu'on connaît pour avoir vu, parce que je vous demandais, est-ce que ça fait longtemps que vous avez fait du théâtre avant cette pièce-là? Et Kim vous disait, ça fait 5 ans.
Exact, 5 ans. Puis quand je suis sortie de l'école, je jouais beaucoup au théâtre. Fait que 5 ans, c'est une longue jachère. Je suis vraiment contente de
revenir. Je comprends. Je me souviens, je vous avais vu dans Mademoiselle Julie, vous étiez excellente. Merci. Et Rose, hein,
oui.
Vous, ça fait un peu moins longtemps.
Oui,
là.
Oui, c'était cet hiver, en février. J'ai remplacé dans Deux femmes en or.
Wow, beau rôle. Hein?
Oui, c'est le fun. C'est
oui, Isabelle Vouillette, le rôle d'Isabelle Vouillette. Et Kim, on vous a vu dans Empathie.
Oui.
Vous avez un rôle très important. Et puis aussi dans, au théâtre, dans La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Au cinéma dans 10 mois, pourquoi ces choses sont si belles. Vous avez chacune une très, très belle fiche, belle carte de visite. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez ensemble?
Non, on a joué ensemble il y a plusieurs années.
Dans la pandémie, en plein dans la crise,
ouais.
On était en tournée avec Les Hurlevents de Fanny Britt.
Ouais, ah, ouais, ouais. Oui. Et j'ai aussi, à ce moment-là, remplacé. J'ai comme un karma de remplaçant des fois, moi, mais
ça arrive.
J'avais remplacé. Fait qu'on jouait des sœurs, Kim et moi.
Et maintenant, on joue des blondes.
Voilà! Deux blondes, mais une blonde, voilà. Une blonde, dans le sens que vous êtes un couple lesbien.
Exact.
On dit que vous êtes un couple lesbien ordinaire. Ça veut dire quoi, c'est un couple lesbien ordinaire?
Ordinaire.
C'est ce que j'ai lu dans les communiqués.
Ouais.
Je pense que c'est virangé, amis en commun, qui sont ensemble depuis 4 ans, sont mariés. Là, on n'en parle pas trop, là, mais je pense qu'ils sont mariés.
Oui,
dans
ouais.
La pièce.
Puis je pense que des fois, là, quand on dit le terme ordinaire, c'est un peu pour dire que tout le monde peut se reconnaître dans ce genre de dynamique très.
Ouais.
Tu sais, que peu, on voit ce couple-là, puis on se dit, ah, c'est comme nous autres, tu sais.
Ouais.
Jusqu'à preuve du contraire, là, c'est quand même un show de théâtre où il se passe des choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à prime abord, tu sais, c'est comme. Ils n'ont rien de
d'exceptionnel.
D'exceptionnel, là, ouais.
C'est comme pour démocratiser le lesbianisme, dans le sens de montrer que c'est on peut être de toute orientation sexuelle ouais. et se reconnaître. Mm-hmm. Ce ne sont que deux femmes qui sont ensemble et qui vivent des trucs. Après, ils vont vivre des choses différentes de d'autres personnes. Mais je pense que c'était ça le but de Debbie aussi, de montrer sur scène des couples lesbiens parce qu'il n'y a pas dans la dramaturgie, il n'y en a pas vraiment. Comme elle disait, mm-hmm. Michel-Marc Bouchard avec la Christine Reine-Garçon, il y a eu Coco, Nat Doumer, mais il n'y a comme pas tant de représentation.
Debbie Lynch-White qui, elle, affirme haut et fort son homosexualité mm-hmm. et qui, donc, a pris le taureau par les cornes ouais. pour proposer un premier texte. Et elle vous a approché toutes les deux. Comment ça s'est passé?
J'ai été très touchée. J'ai reçu cet appel de Debbie. J'étais touchée parce que, de un, première mise en scène, premier texte. J'avais fait ma première mise en scène un an avant, avec la compagnie de Rosanne, d'ailleurs. Ouais. Puis, je savais ce que ça demande de se lancer dans le vide.
Ouais, fait que j'étais ouais, quand même une première expérience puis
exact,
l'inconnu total.
Exact, ouais. J'étais comme très très touchée parce que je le sais que c'est se mettre à nu, fait que c'est ça puis après ça
moi j'ai fait une audition parce qu'il fallait trouver la partenaire qui allait être avec Kim puis yes. puis
ça a cliqué
quoi.
Vous aviez déjà joué ensemble, ça ah, aide, j'imagine.
C'est sûr ouais. que j'étais en confiance.
Mais aussi que Rosanne était très bonne.
Ça. Ah, ça, on n'en doute pas deux secondes. Alors, comment vous présentez l'œuvre? Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce de théâtre?
Ben alors, on retrouve ce couple-là après un party de fête. Le party de fête du personnage qui est joué par Kim.
Elles sont ensemble depuis combien de temps?
Elles sont ensemble depuis 4-5 ans, ouais. Okay. Puis, dans le fond, elles arrivent pour se coucher. Puis le public est vraiment comme un peu voyeur de cette soirée, de ce moment d'intimité entre ces deux personnes-là.
Il n'y a pas un lit debout, là? Quand...
Non, mais il y a un lit couché, par exemple.
On a fait des blagues avec
on
ça.
On a fait des blagues de, ah oui? de petite vie. Puis, c'est ça, c'est comme un peu... on aurait aimé ça qu'elles fassent juste se coucher et dormir, mais c'est pas ça qui se passe. Puis on assiste à comme une soirée qui des discussions de fil en aiguille qui vont mener à
exposer
si une certaine violence.
Une certaine relation toxique.
Ouais. Oh, d'accord.
Puis c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de ça, là, les relations toxiques. Là, je trouve que c'est comme quelque chose qui est abordé beaucoup. Je trouve que ce que Debbie a réussi à faire dans ce show-là, c'est qu'elle déjoue comme les clichés qu'on peut imaginer quand on entend ce genre de terme-là, relation toxique. Il y a pas une des deux qui est parfaite, c'est pas une relation typique bourreau-victime, ouais. Il y a quelque chose de très complexe, puis de vraiment comme nuancé, qui est super le fun, puis qui fait
le fun à jouer.
Ben, fun à jouer, ouais. Puis comme spectateur, en tout cas, je me mets à la place des gens qui peuvent recevoir ça, c'est que tu finis par te reconnaître un peu des deux,
ah, ouais.
Positivement et négativement. T'sais, on a tout, je pense... Ben,
il y a personne de parfait.
T'as du monde parfait, je connais pas.
Non, moi non
mais,
plus.
Mais tu sais, on finit par voir des comportements puis se dire, ah oui, j'avoue que ça, c'est... Fait que la nuance qu'elle amène puis la petite précision, la petite finesse, je trouve que c'est très, très intéressant.
Ce qu'elle aimait aussi, c'est de nous amener à l'intérieur. Donc, ce qu'on ne voit pas de nos couples d'amis parce que ça se passe à la maison. Mm-hmm. Fait que le public est spectateur de quelque chose qu'il normalement ne verrait pas.
Voyeur, ouais, presque. Exact. C'est carrément. Là. Exact.
Ouais. Alors, c'est quoi le défi de jouer ce texte-là et votre rôle aussi? Là? Comment vous vous appelez?
Mon personnage s'appelle Elisabeth.
Moi, Justine. Justine. Ben, pour Justine, ce qui est plus challengeant, si on veut dire, ce qui est difficile, c'est que c'est finalement, en bout de ligne, elle va très loin. Fait que c'est de se dire, d'accepter aussi qu'on va personnifier cette part d'ombre-là, qui, de quelqu'un qui est nuancé quand même, là, c'est ça, comme tu le disais, c'est nuancé. Puis, sauf que ce qui était plus difficile, c'est de plonger là-dedans, puis d'assumer que ça fera pas l'unanimité, puis que peut-être qu'il y a du monde qui vont dire, je vous aime pas, vous, là.
Ouais. Je vous aime pas, Justine.
Je vous aime pas, votre personnage.
Ouais. Ouais. Mais les gens disent souvent, compliment. Vous.
Ouais, ouais. Oui. Mais quand on se dit, je vous aime pas, c'est parce que vous avez atteint le but,
oui,
si c'est
exact,
ça.
Absolument. Ouais.
Puis sinon, moi, je trouve un défi qui est peut-être plus, moins lié à mon personnage, mais plus... à la pièce en tant que telle, c'est que c'est vraiment comme on embarque dans un train puis faut pas débarquer pendant là, tu sais, faut vraiment être connecté au niveau de la concentration, de l'énergie, de
ouais.
Puis
de l'écoute
puis il y a quelque chose qu'on joue avec la lumière là, des fois il y a des moments de noirceur, puis là il y a des moments de silence, puis là faut toujours rester comme extrêmement connecté à la situation. C'est vraiment le fun à faire. Mm-hmm. Puis mais je trouve que c'est comme un défi un peu sportif là à relever. Oui.
Ça devient une course.
Une course, oui.
Est-ce que le public va être sous tension? Comment le public va recevoir ça, selon vous?
Va rire beaucoup dans des moments, parce que comme Debbie utilise le silence, il y a des moments où tu fais, ben, qu'est-ce qu'on vit? On est tous dans le noir ensemble, regarder. Qu'est-ce qu'on regarde? On ne voit pas grand-chose.
On rit parce qu'on est mal à l'aise?
Oui, il va y avoir ça, exactement.
Je pense qu'on rit aussi parce que c'est des personnages qui sont, à certains moments, très sympathiques, puis très... comme on disait tantôt, l'aspect voyeur, on a vraiment accès à genre le cru de leur conversation, fait que c'est super drôle.
Ouais. Puis après ça, c'est que plus on va avancer dedans, là, plus on est pris dans l'engrenage, puis je pense que le malaise va venir de « et il y a des longs silences et on vit ça ». C'est un beau terrain de jeu, mais je pense que les gens vont embarquer dans ce terrain de jeu.
Tu sais, un peu être sur le bout de la chaise, voir qu'est-ce qui va se passer. Tu parlais de tension, là. Je veux pas nommer le thriller nécessairement, mais il y a quelque chose de. On dirait qu'à un moment donné, on le sent que ça va peut-être mal finir, puis on veut voir qu'est-ce qui va arriver. Peut-être ça va bien. Tu sais, comme l'espèce de feeling de vouloir là, vraiment savoir, je pense.
Mais est-ce que c'est la première fois que ce couple-là vit une crise?
Selon ce qu'on s'est parlé, je pense que c'est pas la première fois. Il y a plein de trucs insidieux qui se disent, qui se passent. Ouais. Par contre, que ça se rende aussi loin, c'est la première fois.
Exact.
Là, ça va sortir.
Ouais, ça sort plus fort, peut-être.
Et ça sera pas nécessairement beau, mais on peut pas en dire plus que...
Exact.
Et comment on peut jouer les silences, les non-dits? Est-ce que c'est... Je sais pas, c'est plus difficile que de jouer des répliques parlées?
Ce qui est vraiment le fun pour Kim et moi, c'est qu'on est avec Debbie qui a fait une maîtrise en théâtre où elle explorait les silences, donc, dans le cadre de sa maîtrise. Fait qu'elle, là, c'est comme son terrain de jeu. On est avec la pro des silences au théâtre. Là,
il me semble qu'il y en a tellement pas beaucoup de silences.
C'est exact. C'est ça qu'elle aimait, parce qu'elle s'est dit, on les utilise pas assez.
Exact.
Donc, elle dit, je veux... étrangement, depuis que j'ai entendu Debbie parler de ça, il y a plein de monde qui me disent, mon Dieu, que les silences me manquent au théâtre. T'sais? Maintenant, on est dans l'efficacité, on veut aller rapidement et tout ça.
Et les silences parlent, pourtant.
Exact. Oui, petit des fois, on a comme peur d'être plate. Je mets des guillemets ici.
Oui, on ne voit pas.
Mais au final, un silence qui est habité avec comme un regard qui est soutenu dans de la bonne manière, dans la bonne émotion, c'est l'affaire la moins plate.
Pour répondre aussi à la question, ça devient des répliques.
Absolument.
Oui.
Ça devient vraiment des répliques. Fait qu'on est comme on sait qu'à ce moment-là, puis cette réplique-là, elle peut être dite un certain soir, peut-être qu'elle va être un peu plus courte, mais on a le minimum, mettons, de ce qu'elle va.
Puis on sait ce qu'on dit dans ce silence-là aussi. On sait c'est quoi l'intention qu'on veut transmettre à l'autre personnage avec ce silence. Fait que, carrément comme une réplique, là, comme tu dis.
Le silence peut être aussi très manipulateur dans une relation de couple. Là.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des très longs silences? Est-ce que vous calculez, OK, là, celui-là dure 15 secondes, l'autre 30 secondes? Ouais.
As-tu le droit de le dire?
Mais il y aura peut-être un très long
là, qui pourrait ressembler...
Alors, pas 20 minutes.
Qui pourrait ressembler à un 5 minutes.
Ouais.
Mais qui est accompagné quand même de trucs, là. Donc, c'est pas rien, là.
Ouais. T'as la mise en scène aussi, comme Debbie a exploré ça, assez comment rendre ça intéressant.
Oui, exact.
Le titre est très beau. Est-ce que Debbie vous a expliqué comment c'est arrivé dans sa tête?
Même pas, non. On a juste su à une soirée que c'était un très, très long titre à la base, puis c'est pas ça qu'elle a choisi. Je sais même pas c'était quoi.
Ah, peut-être que c'est une longue réplique que
peut-être qu'une de vous deux. Mais je sais pas. C'est vrai, on n'a jamais posé cette question-là.
Mais ce qui est drôle, je trouve le titre qui est quand même assez poétique ou qui a comme quelque chose. Il laisse peut-être présager que le show est très poétique alors que c'est pas ça du tout, le show, on est dans l'hyper-réalisme, comme le parler très, très, très proche de nous.
Ça se passe où exactement? Ben, dans un lit, dans une chambre, mais où?
Dans un appartement montréalais.
Oui, exact.
Ouais.
Dans un condo des deux filles.
Ouais.
Et avez-vous du plaisir à jouer ensemble?
Oh my God.
Plate.
Non, c'est vraiment le fun. Je pense qu'on est deux filles très passionnées parce qu'on fait très
complémentaires,
très 100%. Oui. Fait que c'est vraiment le fun quand t'es à 100% de jouer avec quelqu'un qui est à 100% aussi.
Très préparé, très impliqué. On a une communication. Il y a des trucs qui demandent une intimité. Fait une bonne communication aussi, c'est important de savoir les limites de l'autre pour après ça savoir c'est quoi le terrain de jeu dans lequel on peut jouer.
Mm-hmm.
Fait que ça se passe super bien. Ça a été rapide, ça a été vite. Ouais.
Il y a eu une belle bienveillance dès le début, entre nous avec Debbie aussi, mais comme entre nous deux pour être sûr que tout était respecté des deux bords.
Mais on dirait que cet automne, les duos féminins sont à l'honneur.
C'est vrai,
je pense à Les Vacances, dans La Petite Salle, qui est une pièce extraordinaire que j'ai adorée. Puis il y a aussi Petit Morceau de Foudre à la salle Régent du Chambre. ADNM, oui. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Ou...
Des fois, il y a quelque chose dans, je trouve, dans la création théâtrale ou comme les choses ouais. convergent.
Les gens s'écoutent, s'espionnent.
C'est peut-être que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, des duos féminins.
Ouais. Mais je pense qu'il y a tellement eu de... Puis, en tout cas, je ne ferai pas de la politique là-dedans, mais je pense qu'il y a tellement eu de trucs par rapport aux hommes qui ont été dits, qui ont été faits, que là, c'est peut-être un retour du balancier qu'il y a plusieurs femmes qui ont des histoires à raconter. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis elles sont toutes différentes, ces histoires-là.
C'est puis ça, puis ça. Des histoires à raconter qui n'incluent pas nécessairement...
Un homme.
Ouais. Voilà. Et c'est Debbie Lynch-White qui fait la mise en scène. Ouais. C'est comment travailler avec celle qui a écrit le texte aussi, là?
Ben, c'est vraiment le fun. Debbie, elle a une idée très, très claire de ce qu'elle veut. Dès le début, moi, j'ai senti qu'elle pilotait ce bateau-là avec énormément de confiance et d'écoute, ce qui est comme le mix qu'on recherche là, quand on travaille avec quelqu'un à la mise en scène. Qui est
d'ouverture ouverte... aussi.
Ah, d'ouverture ouais, à nos vraiment. Propositions, mais en même temps, on sait ce qu'elle veut, fait que nous, on est rassurés.
Ouais. Oh, oui, vraiment... vous êtes bien encadrés.
Ouais. On parlait de bienveillance tantôt, il y a ça. Puis aussi, tu sais, c'est un travail d'équipe. Puis, tu sais, je pense que fait, on va voir toutes les options possibles, quelle est la meilleure option. Après, ouais. ça sera le capitaine de bateau, elle va décider, mais tu sais, jamais fermée à rien.
On se sent libre.
Tout, on se sent comme...
Ouais. C'est super. Exactement. Alors, pourquoi il faut voir l'usure de nos aurores?
Ben moi, je trouve qu'on voit pas souvent, l'expression de la violence au féminin qui est en dehors des clichés. Puis c'est vraiment intéressant, je trouve, ce qu'elle touche avec dans ce texte-là. Fait que moi, ça serait ça ma raison. Je serais intéressée par ça.
Je pense que c'est une parole forte. Je pense que c'est dit avec beaucoup d'humour, de sensibilité et de réalisme. Fait que je pense que c'est vraiment important que n'importe qui vienne le voir parce que on va découvrir des parties de soi, même en étant hétérosexuel, pansexuel.
Ça n'a pas rapport.
Ça n'a pas rapport. Ouais. Et on va peut-être mieux comprendre des fois la violence au féminin, comme tu dis, qui est différente, pas moins dommageable.
Ouais.
L'usure de nos aurores, c'est une pièce à voir qui prend l'affiche de la grande salle du Théâtre La Licorne à partir du 7 octobre et ce jusqu'au 15 novembre. Et j'accueillais pour en parler les deux comédiennes qui jouent dans cette pièce de Debbie Lynch-White, Rosanne Derry et Kim Despatie. Merci. Et qu'est-ce que je vous dis? Le mot de cambronne?
Ben voilà, mais merci.
On le prend.
On le prend.
Allons-y avec des par actualité. La Société canadienne de la sclérose en plaques, section Bas-Saint-Laurent, s'est dotée d'une nouvelle alliance avec un partenaire local, le Carrefour 50+ du Québec. Ensemble, ils lancent un cri du cœur pour déployer un effort sans précédent auprès des personnes de 50 ans et plus qui vivent avec la sclérose en plaques et de leurs proches. L'initiative vise à combler un manque de services et de ressources dans les régions éloignées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Saviez-vous qu'au Canada, on a 25 fois plus de chances, en fait, 25 fois plus de chances, façon de parler, d'être atteint de la sclérose en plaques que d'être frappé par la foudre? Cette statistique, aussi surprenante soit-elle, souligne l'urgence d'agir. Chaque jour au Canada, 12 personnes reçoivent un diagnostic de SP, sclérose en plaques. L'âge moyen de ces diagnostics est de 43 ans, et 75 % des personnes vivant avec la maladie sont des femmes. La Société canadienne de la SP répond à un besoin criant des communautés de l'Est du Québec, des régions où les distances sont longues et les ressources spécialisées se font rares. Pour pallier ce manque de soins et de services, l'hôpital régional de Rimouski y envoie déjà ses neurologues en itinérance. Ce partenariat permet à SP Canada d'offrir ses services directement là où ils sont le plus nécessaires. L'événement avait alors réuni le maire de Rimouski, le député du Bloc québécois et la députée de Rimouski. Sensibles à la cause, ces élus ont salué les actions de la Société canadienne de la sclérose en plaques. En se chargeant des frais d'adhésion de 25 $ de manière confidentielle, SP Canada ne fait pas que faciliter l'accès à des activités adaptées. L'organisme appuie aussi le Carrefour 50+ du Québec dans son rôle d'ouvrir une porte vers l'inclusion des personnes à mobilité réduite. Pour y parvenir, le Carrefour 50+ fait preuve d'innovation en se dotant notamment de jeux et d'outils conçus pour assurer la pleine participation de ses membres qui utilisent un équipement d'assistance à la mobilité. La Société canadienne de la SP est un leader mondial de la recherche sur la sclérose en plaques. Le Carrefour 50+ du Québec regroupe des personnes de 50 ans et plus afin de favoriser le maintien à domicile, l'action citoyenne et la participation à la vie sociale. Connaissez-vous Ciné Scapade? C'est une nouvelle initiative du FIFEM qui vise à développer l'accessibilité du cinéma pour les jeunes en situation de handicap sensoriel, les sourds, les malentendants, les aveugles, les malvoyants ou ayant un trouble du spectre de l'autisme. Ainsi, le FIFEM invite les établissements scolaires et spécialisés à présenter gratuitement des films de qualité à ses enfants. Cette nouvelle initiative est rendue possible grâce au soutien de la Fondation Mirelle et Lino Saputo et de la SODEC. Offrir gratuitement des séances inclusives permettant à tous les jeunes de vivre des expériences de cinéma et de découvrir les œuvres du cinéma québécois et international, c'est le but. Et le public concerné, des jeunes d'établissements scolaires et spécialisés, des centres de loisirs et de répit éducatif et médico-sociaux. Les films sont disponibles en version audio décrite pour les jeunes aveugles ou malvoyants et sous-titrés pour les jeunes sourds et malentendants. Pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, il suffira de s'inspirer des âges recommandés pour chaque film. Parmi les films, on trouve Coco Ferme, Le Dernier Jaguar, Pile, Yuku et La Fleur de l'Himalaya et d'autres. De nouveaux titres seront ajoutés chaque mois. Afin de se tenir informé, les conseillers de s'abonner à l'infolettre, je vous donne l'adresse du site Internet, c'est tout simple, fifem.com. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission d'aujourd'hui. Passez une très belle journée. C'est presque l'été. Bien, c'est l'été, mais on est l'automne. À demain.